Ce soir, nous recevons le professeur Philippe Hacher. Le professeur Philippe Hacher est né en 1936. Il est neurobiologiste, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, directeur du laboratoire de neurobiologie de l'École normale supérieure, également professeur à l'Institut universitaire de France. Parmi les prix qu'il a reçus, je mentionnerai en 1991 le prix Luigi Galvani, qui lui a été décerné par la fondation FIDIA. Il est également l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées. Donc, monsieur le professeur, je vous laisse la parole pour 50 minutes. Je vous remercie.
Alors, par rapport aux autres thèmes qui ont été traités hier et qui seront traités dans les conférences suivantes, l'étude des signaux neuronaux se place à l'intérieur du système pour étudier en quelque sorte les détails de ce système. La notion que, et en particulier, les neurones et les synapses. Les deux notions de neurones et de synapses sont des notions qui datent du début du siècle. On les trouve déjà dans le livre de Sherrington qui s'appelle « L'action intégrée du système nerveux ». Et bien qu'à cette époque, on ne puisse pas affirmer que la constitution est celle qui était supposée, l'idée est déjà assez précise. Et dans les années qui suivent, les anatomistes vont donner un dessin de plus en plus précis de l'organisation de ce réseau neuronal. Par contre, en ce qui concerne le fonctionnement, les choses sont beaucoup plus troubles au début du siècle. Ce n'est que vers 1950 qu'on voit apparaître quelques informations précises, et en particulier la comparaison avec une calculatrice, bientôt avec un ordinateur. Alors, cette comparaison du système nerveux avec un ordinateur a été souvent faite, souvent critiquée, mais elle a le mérite d'indiquer que le système nerveux, entre autres, fait des calculs, et fait des calculs rapides. Et que pour faire ces calculs rapides, les neurones ont besoin d'échanger des signaux rapides, des signaux qui se déplacent à grande vitesse. Et c'est de ces signaux que je veux parler aujourd'hui. Il y a d'autres signaux dans le système nerveux, des signaux à des échelles de temps plus lentes, mais je n'en traiterai pas. Je voudrais essayer de montrer ce qui fait la spécificité du système nerveux, qui est cette faculté de travailler à grande vitesse. Alors, la nature de ces signaux était pratiquement inconnue dans les années 50. Aujourd'hui, on sait comment fonctionnent ces signaux, et surtout quelle est leur structure moléculaire. Et la première partie de mon exposé sera consacrée à vous montrer comment on est arrivé à la notion que tous les signaux rapides du système nerveux dépendent de structures moléculaires qu'on appelle des canaux ioniques. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous montrer qu'on arrive à la fin de ce recensement des canaux ioniques, on arrive à une nouvelle période où on peut enfin construire des modèles rationnel et informé de ce qu'est un neurone, de la façon dont il fonctionne, mais qu'on bute pour aller plus loin sur deux obstacles que je voudrais détailler, parce que je pense qu'on pourra bientôt les passer aussi. Le premier, qu'un neurone a une géométrie très particulière qui complique singulièrement sa modélisation, et deuxièmement, qu'un neurone est plastique, c'est-à-dire que son équipement en canaux ioniques change au cours du temps, et ça pose évidemment le problème de l'évolution du système nerveux, de la mémoire, de l'apprentissage, mais c'est le problème central des années à venir. Alors, si j'en viens à la première partie, à ces signaux nerveux, le premier de ces signaux, celui qui a été compris le premier, c'est le potentiel d'action. Alors, le potentiel d'action, c'est un signal électrique, c'est un signal bref, qui dure une milliseconde, donc nous sommes dans l'échelle de la milliseconde, et c'est un signal dont on a deviné l'existence il y a bientôt 200 ans. La première image que je vous propose, c'est une image qui nous ramène dans les années 1780-90, qui est la maison de Galvani. Vous avez dit que j'ai eu le prix Galvani, j'en suis très fier, car Galvani est le fondateur de l'étude des signaux électriques dans le système nerveux. Alors, Galvani est fameux, et surtout fameux pour sa controverse avec Volta. Et sur quoi portait la controverse? La controverse portait sur l'expérience, sur l'interprétation des expériences que vous voyez représentées ici, entre autres, dans lesquelles des grenouilles avaient été accrochées au balcon de la terrasse de Galvani. Ici, on a trois petites grenouilles. Et dans l'expérience initiale de Galvani, il avait vu que les muscles de ces grenouilles se contractaient quand il y avait de l'orage. Mais un jour, il avait préparé les grenouilles pour un orage, l'orage n'est pas venu, il a touché les grenouilles avec une pince métallique et il a vu que cette pince métallique déclenchait la contraction. Et c'est l'interprétation de cet effet qui l'a opposé à Volta, et au fond, Volta a gagné. On fêtera cette année le 200e anniversaire de la publication dans laquelle Volta décrit la pile voltaïque, la pile qui porte son nom, la pile qui a fait commencer l'époque industrielle de l'électricité. Et effectivement, Volta avait raison en disant que dans cette expérience, ce qui se passait, l'électricité qui apparaissait et qui stimulait ce muscle n'était pas d'origine animale, mais était due au fait qu'il y avait deux métaux, le métal de la pince et le métal de la grille de la balustrade. Et à partir de cette analyse, il a montré que les interprétations de Galvani sur ce point étaient fausses. Mais Galvani avait quand même raison sur un autre point, c'est-à-dire qu'il y a une électricité animale. Et c'est dans l'analyse plus poussée de ces expériences, ce qui se passe au moment où le muscle se contracte, c'est l'apparition d'un signal électrique qu'avait prédit Galvani et qui était en fait le potentiel d'action. Alors il a fallu pratiquement 100 ans pour qu'on ait les premiers indices de la mesure de ce potentiel d'action, pratiquement 150 ans après ces expériences pour qu'on enregistre vraiment le potentiel d'action et pour qu'on comprenne la façon dont il marche. Et ça a été le travail extraordinaire de Hodgkin et Huxley qui leur a valu le prix Nobel pour les travaux qu'ils ont publiés en 1952. Donc nous sautons 150 ans et nous arrivons en 1952 à la description du potentiel d'action par Hodgkin et Huxley qui est illustrée sur l'image suivante. Alors, pardon. Cette image vous montre un potentiel d'action au centre et donc un signal, une dépolarisation brève de l'ordre de la milliseconde qui, d'une amplitude de l'ordre de 100 millivolts. Et ce qu'ont compris, ce qu'ont expliqué Hodgkin et Huxley, c'est la façon dont ce potentiel d'action se développe. Il se développe parce que lorsqu'on change le potentiel, lorsqu'on dépolarise la cellule, il s'ouvre dans la membrane des passages pour les ions qui bordent la membrane de part et d'autre. Et en fait, il se passe deux choses. Un premier phénomène, qui est le plus spectaculaire et qui a frappé le plus les imaginations, c'est l'augmentation de la conductance aux ions sodium. C'est-à-dire que, pour une manière qu'à l'époque on ne comprenait pas, la dépolarisation ouvre des voies de passage pour les ions sodium, qui sont très abondants à l'extérieur de la cellule, qui vont rentrer dans la cellule. Mais en rentrant dans la cellule, ils vont la dépolariser, et par conséquent, ils vont ouvrir une nouvelle voie de passage qui va faire entrer du sodium, qui va dépolariser, etc. Vous avez ici une boucle de rétroaction positive qui va s'enclencher, qui va déclencher un phénomène explosif, et le potentiel d'action va se développer très rapidement pour monter jusqu'à son sommet, qui serait ici, normalement, et auquel il se maintiendrait s'il ne se produisait pas un deuxième phénomène, qui est un phénomène en sens inverse. La dépolarisation ouvre aussi une voie de sortie pour les ions potassium, et les ions potassium sont distribués à l'inverse des ions sodium, ils sortent de la cellule, ils l'hyperpolarisent, et donc ils s'opposent à la dépolarisation, et ils vont ramener le potentiel vers le bas et terminer le potentiel d'action. Alors les deux processus sont légèrement décalés dans le temps, la rétroaction positive démarre la première, la rétroaction négative s'enclenche une fraction de milliseconde après, et c'est cet enchaînement des deux phénomènes qui décrit ce signal, qui est le signal qui va se propager le long des axons. Alors le grand mérite de Hodgkin-Huxley, ça a été de comprendre ces deux boucles de rétroaction, et ça a été une avancée majeure du point de vue de la physiologie du système nerveux. Mais Hodgkin et Huxley n'avaient aucune idée de ce que représentait cette augmentation de conductance. Ils ne savaient pas si les ions qui passaient à travers la membrane traversaient la phase lipidique, traversaient des protéines. Quelques années plus tard, on s'est convaincu que ça devait se passer à travers les protéines, mais à ce moment-là, on s'est demandé si ça passait à travers des transporteurs, c'est-à-dire des sortes de molécules qui tournaient dans la membrane et qui transportaient un ion à la fois, ou si ça se passait à travers des canaux ioniques, c'est-à-dire des protéines dans lesquelles il y a un trou de l'eau et les ions passent à travers ce trou. Et la discussion aurait pu durer longtemps sans le développement d'une nouvelle technique, qui a été une nouvelle technique qui a valu à ses auteurs l'attribution du prix Nobel, Neher et Zachman. Hodgkin et Huxley avaient eu les premiers le prix Nobel. Et cette technique de patch, et la technique de patch clamp, est illustré sur la figure suivante. Et où vous voyez son principe. Une cellule, ici, a été nettoyée, rendue lisse, et on colle à sa surface une pipette de verre dont le diamètre, ici, est de l'ordre du micron. Et si la cellule est bien nettoyée, et si la pipette est propre, ce scellement se fait de manière tellement étanche que si l'on retire ensuite la pipette, on peut emmener un petit morceau de membrane, un petit morceau de membrane qu'on appelle un patch, dans lequel on va trouver un ou deux ou trois, en tout cas un nombre très petit, de ces fameux canaux ioniques. Alors, en m'intéressant qu'à ce dessin ici, l'image que je vais vous montrer dans un instant correspond à un prélèvement d'un petit patch de membrane, d'un petit fragment de membrane sur un muscle, et elle vous montre des canaux uniques en train de s'ouvrir et de se fermer. Vous voyez ici, prenons la ligne du milieu, ici le canal est fermé, il n'y a pas de courant, ici le canal s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme, etc. Et chaque fois que le canal s'ouvre, le courant qui passe a la même amplitude, c'est la démonstration qu'il s'agit d'une seule molécule en train de s'ouvrir et de se fermer dans la membrane. Alors cette image est intéressante parce que je dis qu'elle démontre qu'il s'agit d'un canal. Pourquoi je dis qu'elle démontre qu'il s'agit d'un canal? Parce que si je regarde ici le courant qui traverse cette molécule unique, courant de 10 picoampères, si vous calculez combien d'ions passent, vous apercevez que vous arrivez à quelque chose qui est de l'ordre de plusieurs millions d'ions par seconde. Alors là, ça règle la question. Ça ne peut pas être un transporteur, car une molécule qui tournerait à 10 millions de tours par seconde dans la membrane, c'est impensable. Et par conséquent, l'interprétation qui s'impose ici, c'est qu'effectivement, il s'ouvre un passage à queue dans lequel, effectivement, on peut imaginer plusieurs millions d'ions s'engouffrant à travers le canal. Alors cette image montre autre chose. C'est un canal un peu particulier. C'est un canal qui est sensible à la concentration de calcium sur la face intracellulaire. Vous vous rappelez que j'ai arraché un petit fragment de membrane et j'expose la face qui était à l'intérieur de la cellule à l'extérieur de la pipette. On parle d'une configuration inside-out. Et vous voyez qu'ici, quand la concentration de calcium est faible, à 0,82 micromolaires, le canal s'ouvre de manière très brève et très rare. Ici, quand la concentration augmente, il s'ouvre de manière plus longue et plus fréquente. Et puis, quand on augmente la concentration ici à 5,46 micromoles, il s'ouvre 80% du temps, et on peut même arriver à l'ouvrir en permanence si on monte encore la concentration de calcium. Alors c'est un canal potassium que nous retrouverons tout à l'heure, et donc ce que je vous demande de retenir à l'instant, c'est un canal potassium qui va être de plus en plus ouvert quand on augmente la concentration de calcium à l'intérieur de la cellule. Donc, à partir de ces expériences, on passe de la notion globale et mystérieuse de conductance à une notion très concrète, qu'un changement de conductance, c'est une protéine qui change de conformation et à travers laquelle s'engouffrent des ions. Et puis, arrivera ensuite la génétique moléculaire, et la génétique moléculaire va nous permettre de cloner, de séquencer ces protéines. On va en avoir tous les détails au point de vue de leur constitution en acides aminés, et on va s'apercevoir qu'un certain nombre de prédictions qui avaient été faites par des physiologistes dans les années 70 à 80 sont admirablement vérifiées par les observations de la génétique moléculaire. L'image que je vous présente ici est une image due à Armstrong qui, en quelque sorte, a résumé en trois phases l'histoire des canaux ioniques sur deux concepts. Le concept de transporteur ou canal et le concept d'inactivation. Vous voyez, l'époque héroïque, c'est l'époque d'Hodgkin-Huxley. On ne sait pas si c'est un transporteur, un carrier, ou un port, un canal. L'époque transitionnelle, c'est l'époque où son ami Hill dessine ce petit diagramme et dit, ça doit être un canal, et non seulement c'est un canal, mais il doit avoir un diamètre de 3 angstroms. Pourquoi ce canal potassium a-t-il un diamètre de 3 angstroms? Eh bien, c'est parce qu'il avait montré que le potassium arrive à traverser, mais que des ions plus gros que le potassium, qui a un diamètre de l'ordre de 2,7 angstroms, ne passent pas. Et que des ions plus petits que le potassium, comme l'ion sodium déshydraté, ne passent pas non plus parce qu'il n'est pas ajusté aux parois du canal. Et par conséquent, il avait prédit que les canaux potassium devraient avoir un diamètre de 3 angstroms. Et puis c'est l'époque moderne. L'époque moderne, c'est la génétique moléculaire, où on déchiffre la séquence des canaux potassium, et on s'aperçoit que tous les canaux potassium, et on en connaît maintenant des centaines, ont la même région ici, dans la région qu'on sait être la région du canal, avec en particulier une signature de ces trois acides aminés très caractéristiques, G, Y, G, qui permettent de reconnaître dans une séquence de plusieurs centaines d'acides aminés, de dire immédiatement, là, il doit s'agir d'un canal potassium. Le dessin d'en dessous, c'est un dessin qui résume l'histoire d'un autre concept, mais dû cette fois-ci à Armstrong lui-même, qui est le concept d'activation et d'inactivation. Un canal s'ouvre quand on change le potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le potentiel a dû faire bouger quelque chose dans le canal. Et Hodgkin et Huxley, là encore, n'avaient pu que dire qu'il doit y avoir des particules qui se déplacent. Et puis quand on regarde, le canal se referme. Et cette fermeture, ça doit être aussi des particules qui se déplacent. Donc à l'époque héroïque, on a des dessins de ce type. On n'est pas capable d'imaginer des hypothèses structurales. Et puis voilà Armstrong qui, à partir d'expériences que je ne vous détaillerai pas, propose ce schéma qui a beaucoup fait rire à l'époque, qui avait l'air d'un schéma dessiné sur le coin d'une table, une fantaisie de physiologiste, dans lequel le canal est dessiné comme l'avait proposé Hill, avec la partie étroite ici, qui est la zone où est choisi l'ion qui va passer, et puis une porte ici, qui est la porte d'activation, qui va s'ouvrir sous l'effet du potentiel, et puis une boule attachée à une chaîne ici, qui permet d'expliquer que, quand le canal s'est ouvert, il se referme, mais il se referme d'une manière curieuse qui paraît bien expliquée par l'hypothèse qu'il y a une sorte de balle attachée à une chaîne qui va rentrer dans cette cavité, mais qui ne va y rentrer que si la porte d'activation a été ouverte. Eh bien, la surprise des années 90, ça a été que les génétiques moléculaires a cloné des canaux potassium et a montré qu'il y avait effectivement une séquence d'acides aminés, de 80 acides aminés, une soixantaine pour la chaîne, une vingtaine pour la boule, et qu'effectivement, cette prédiction d'Armstrong qui paraissait un jeu et un schéma dessiné sur le coin d'une table, eh bien, effectivement, était la réalité du processus d'inactivation. Il y a bien une porte, il y a bien une boule, il y a bien une chaîne, elle rentre dans le canal. Mais on était encore dans la zone des prédictions. Il s'agit ici de séquences primaires, on ne voit pas le canal. Le canal, on l'a vu, en tout cas on en a vu un, et on a vu son port, on n'a pas vu tout le canal, à partir de mars-avril 98, où le groupe de Rod McKinnon a réussi la première structure cristalline d'un canal. Et alors là, on s'est aperçu que c'était encore plus vrai que ce qu'on croyait. Voilà l'image peut-être là. Je ne sais pas si on voit bien, on peut peut-être éteindre un peu le fond. Vous avez ici une structure, une image de la structure cristalline du canal, dans laquelle vous voyez ici d'abord que le canal est un tétramère, il est fait de quatre unités de même structure, et puis ici, au centre, on voit l'ion potassium dans son logement en train de traverser le canal. C'est bien les dimensions qu'on avait prévues, et le canal est donc une architecture assez rigide, qui maintient ouvert, ici il s'agit d'un canal de bactéries qui est toujours ouvert, qui maintient ouvert ce petit passage pour l'ion potassium qui est ici en rouge et qui a les dimensions prévues de l'ordre de 3 angstroms. Alors l'image suivante, c'est une image où on voit les structures secondaires et donc et un peu plus simplifiée. Et donc on voit que le canal, bien sûr, est de nouveau un tétramère, qu'il est fait de plusieurs, chaque unité est faite d'hélices alpha, d'hélices d'acides aminés, qui lui donne une certaine rigidité, et que ces quatre hélices ici constituent le cadre dans lequel va se créer la voie de passage pour l'ion potassium, qui a été ici dessiné en vert, mais c'est le même que tout à l'heure. Et puis, dans cette image plus synthétique, voilà un dessin du canal dans la membrane. Alors, vous avez ici la bicouche membranaire avec les lipides ici, et puis le canal qui a une forme, on pourrait dire, d'entonnoir inversé, dans lequel il y a ici la voie de passage des ions potassium, avec en fait ici G, Y, G, les trois acides aminés dont on parlait, font le bord de cette paroi. C'est un passage étroit de l'ordre de 3 angstroms. Il contient 2 ions potassium, et ça c'est important car on ne comprenait pas comment un ion potassium arrivait à passer rapidement dans le canal s'il s'attachait aux parois. Ici, ils s'attachent aux parois, mais ils se repoussent les uns les autres et ça accélère leur passage à travers le canal. Et puis, il y avait un gros problème qui était de faire rentrer un ion potassium dans une membrane lipidique. Ça posait des problèmes terribles d'électrostatique qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et comment le canal l'a résolu? Eh bien, il a créé une sorte de petit lac intérieur, ici. C'est-à-dire que l'ion potassium arrive de l'intérieur entouré de molécules d'eau, mais il n'a pas besoin de s'en débarrasser tout de suite. Il s'en débarrasse, il peut les conserver jusqu'au milieu de la membrane, dans la zone où on pensait qu'il aurait le plus de mal à subsister. Eh bien, il est dans son petit lac intérieur, entouré de molécules d'eau, et pas gêné du tout par les queues ici des lipides avoisinants. Et puis là, les hélices alpha l'aident en plus, parce que ces hélices sont légèrement chargées négativement de ce côté, chargées positivement de ce côté. Donc cette extrémité négative l'attire dans ce lac intérieur et l'aide à stationner au milieu de la membrane, à l'endroit qui paraissait le plus improbable. Donc cette découverte de la structure moléculaire des canaux a été, je crois, un grand événement de l'année 1998. Pour le moment, c'est le seul canal qui a été cristallisé, et il n'est que partiel, parce qu'on n'a pas tout le canal ici, mais évidemment, il est clair que dans les années qui viennent, on peut s'attendre à voir tomber les canaux les uns après les autres. Comme je vous l'ai dit, il y en a des centaines, donc il y a du travail pour les cristallographes. Il faut simplement trouver des astuces pour essayer de trouver les conditions méthodologiques et les conditions expérimentales dans lesquelles on pourra poursuivre cette cristallisation. Alors là, j'ai décrit des canaux ioniques qui sont le support du potentiel d'action. Mais le potentiel d'action n'est pas le seul signal neuronal. De fait, s'il était seul, on ne pourrait pas faire d'opérations de calcul, d'addition, de soustraction, etc. Et on savait bien qu'il existait d'autres signaux. Et les principaux de ces autres signaux électriques rapides, mais permettant des sommations, ce sont les potentiels synaptiques. Alors, l'image suivante vous montre une synapse en microscopie électronique. Voilà, une synapse telle que la révèle la microscopie électronique. Donc ici, vous avez la terminaison d'un neurone et puis là, le commencement de l'autre. Donc ce contact entre un neurone, c'est la synapse. Du côté présynaptique, du côté neurone qui arrive, l'élément essentiel, ce sont ces petites vésicules, les vésicules synaptiques, qui contiennent des transmetteurs, des neurotransmetteurs, et qui vont éclater sous l'effet de l'arrivée du potentiel d'action dans cette terminaison, éclater et libérer le neurotransmetteur dans cet espace, un espace très réduit de 200 angstroms à peu près, et dans lequel va donc s'accumuler le neurotransmetteur. Et le neurotransmetteur va diffuser jusqu'à l'autre côté, le côté sur le post-synaptique, sur lequel se trouvent, là encore, des molécules avec des canaux ioniques, mais des récepteurs. C'est-à-dire que cette fois-ci, ces canaux ioniques ne vont pas s'ouvrir sous l'effet d'un changement de potentiel, ils vont s'ouvrir sous l'effet de la liaison des transmetteurs qui ont été libérés dans cet espace. Alors, ces canaux peuvent laisser passer le courant dans un sens ou dans l'autre. Donc, ils peuvent être dépolarisants ou ils peuvent être hyperpolarisants. Et l'idée de base dans le cas du potentiel synaptique, des changements de potentiel qui vont introduire, c'est que justement, il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins, et que le neurone va faire comme calcul l'addition des potentiels synaptiques. Un neurone peut avoir plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de synapses sur ses différentes parties, les différentes branches. Et par conséquent, il va être obligé d'intégrer, comme l'avait déjà perçu Sherrington, de faire la sommation de ces effets plus et de ces effets moins, de ces effets excitateurs et de ces effets inhibiteurs. Cette opération est décrite de manière un peu schématique ici. Un neurone est au potentiel de repos, un potentiel synaptique excitateur l'emmène vers le haut et il va déclencher un potentiel d'action qui, à cette échelle, serait à l'étage du dessus. Ici, un potentiel inhibiteur l'emmène vers le bas, c'est une hyperpolarisation. La combinaison des deux dépendra de l'amplitude relative de chacun et aussi de la latence de l'espace qui les sépare. Ici, vous voyez, le potentiel synaptique excitateur a commencé le premier, mais l'inhibiteur se développe et donc, au lieu d'arriver à ce niveau, on n'arrivera qu'à ce niveau. Et si on devait déclencher un potentiel d'action ici, eh bien, cet effet inhibiteur empêchera le déclenchement d'un potentiel d'action. Donc, il y a un effet ici d'addition algébrique de ces potentiels synaptiques. Et c'est l'opération centrale que font les synapses, d'ajouter et de soustraire le potentiel pour savoir si on atteint le seuil à partir duquel va se déclencher le potentiel d'action qui, lui, est un signal tout ou rien, un signal qui va, une fois qu'il est parti, ne peut plus être arrêté. Alors là encore, dans les années 50, on a découvert ces effets. Dans les années 70, on les a attribués à des canaux. Dans les années 80, on a cloné ces canaux. Le premier canal qui a été cloné, en fait, c'était le canal du récepteur de l'acétylcholine qui a été cloné en 1983 par le groupe de Numa au Japon, un an avant le clonage du premier canal associé au potentiel d'action. Alors, on n'en a pas encore cristallisé, mais on a une bonne idée de leur structure. Et je vous en montre un dont je vais avoir besoin dans un instant, qui est mon canal préféré, qui est le canal activé par le glutamate, et un des canaux activés par le glutamate, et qu'on appelle le canal NMDA. Alors ce canal NMDA est bien compliqué, je ne vais pas vous le présenter en détail, vous le voyez ici schématisé dans sa membrane lipidique, cette fois-ci encore, avec le canal ici, le glutamate se lie ici, et lorsque le glutamate se lie à ce canal, le canal s'ouvre et laisse passer, dans ce cas, des ions calcium et des ions sodium. Sauf que, au potentiel de repos, le canal est bouché. Il est bouché par des ions magnésium qui sont présents normalement dans le milieu extracellulaire et qui ont une très grande affinité pour le site situé au milieu du canal. Et par conséquent, si on ne fait rien d'autre que d'ajouter du glutamate, le canal ne va pas laisser passer les ions. C'est un canal spécial, c'est un canal singulier qui demande pour être perméant qu'on fasse deux choses. Premièrement, qu'on mette du glutamate, mais deuxièmement, qu'on dépolarise, c'est-à-dire qu'on change le potentiel pour éjecter l'ion magnésium. Et ce n'est que dans ces conditions que ce canal va laisser passer les ions sodium et les ions calcium. Alors, cette propriété lui permet d'être impliquée dans le troisième type de signaux neuronaux qui ont été décrits. Je vous ai décrit le potentiel d'action, les potentiels synaptiques. Le troisième type de signaux neuronaux qui attire beaucoup l'attention actuellement des neurophysiologistes, ce sont les signaux périodiques. Effectivement, dans grand nombre de structures nerveuses, on voit des phénomènes d'oscillation plus ou moins régulières. Vous connaissez le problème, la situation de l'électroencéphalogramme, dans laquelle on voit des oscillations qui sont dues à des activités régulières, rythmiques, régulières de population de neurones. Mais beaucoup de neurones ont des activités rythmiques, des neurones moteurs, ceux qui servent à la respiration, ceux qui servent à la locomotion, mais on sait aussi que dans les phénomènes perceptifs, les phénomènes d'oscillation joue un grand rôle dans le codage des messages sensoriels. Alors, comment sont générées les oscillations? Il y a une variété extraordinaire de mécanismes. Certaines oscillations prennent naissance dans un seul neurone, c'est-à-dire le neurone est capable d'osciller tout seul. D'autres oscillations supposent des coopérations entre deux neurones qui se renvoient des excitations et des inhibitions. J'ai choisi d'en illustrer une qui utilise mon canal préféré, le canal NMDA, et le canal potassium activé par le calcium que je vous avais présenté au début de cet exposé. Alors voilà l'oscillation qui est enregistrée dans un neurone, ici moteur. Et vous voyez que ce neurone émet des potentiels d'action, mais il les émet par bouffées régulières. Et le problème ici, c'est de comprendre pourquoi il oscille de cette manière, quelle est l'origine de cette oscillation lente. Eh bien, l'origine de cette oscillation lente, c'est le couplage entre ces deux canaux que j'ai décrits. Le premier, c'est le canal NMDA. Alors, le canal NMDA, si on commence à le dépolariser pour une raison quelconque, en présence de glutamate, il va éjecter le magnésium, et par conséquent, il va devenir perméable, et il va laisser rentrer des ions qui vont dépolariser plus, il va rentrer plus d'ions, ça va dépolariser plus, et on déclenche une boucle de rétroaction positive qui nous emmène jusqu'ici. Et on resterait là, comme dans le cas du potentiel d'action, si ne se déclenchait pas un deuxième phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que ce canal, il est perméable aux ions calcium. Donc il va rentrer du calcium dans la cellule, le calcium, la concentration de calcium va augmenter dans la cellule, elle va ouvrir les canaux potassium activés par le calcium, ces canaux vont s'ouvrir, le potassium va sortir, mais si le potassium sort, le potentiel redescend, et si le potentiel redescend, le calcium cesse de rentrer, et ainsi de suite. Et donc, l'alternance du jeu de ce canal NMDA et du jeu du canal potassium activé par le calcium permet d'expliquer cette oscillation. Et d'une façon générale, toutes les oscillations qu'on a décrites à l'intérieur d'un neurone, là encore, utilisent le couplage entre deux neurones qui n'ont pas toujours ce type de propriété, mais qui sont toujours avec des propriétés, disons, inverses, si on veut. Ici, on a une rétroaction positive. Ici, on a une rétroaction négative. Alors, ma conclusion à ce stade, c'est que tous les signaux nerveux rapides dépendent de canaux ioniques qu'on est en train de cloner ou qu'on a clonés. Et de fait, je crois qu'on peut dire qu'on est enfin du recensement de ces canaux. On en a cloné des centaines, mais la cadence a baissé. En 1998, il n'y en a que deux vraiment importants qui ont été clonés. En 1999, Je disais qu'il n'y a que des petits cousins qui ont été clonés. Aucun nouveau canal vraiment important n'a été cloné en 1959 et on n'en attend pas beaucoup pour 2000. Autrement dit, on est dans une phase où on a sans doute à peu près recensé tous les canaux ioniques principaux. Bien sûr, il y a des variétés, bien sûr, il y a des animaux différents, bien sûr, il y a des mutations qui causent de nombreuses maladies, etc. Mais on peut dire qu'on arrive à une phase où ce recensement est sans doute à peu près terminé. Et alors la question se pose, peut-on maintenant, enfin, faire un modèle d'un neurone, sachant qu'un neurone a 30 canaux de différents, mais qu'on connaît les propriétés individuelles de ces canaux, etc. Peut-on prédire le comportement de ce neurone dans une situation donnée? Eh bien, la réponse est non. La réponse est non, et il y a deux grands problèmes qui nous limitent dans cette affaire. Comme je l'ai dit, le premier, c'est un problème de géométrie. C'est qu'on avait sous-estimé, jusqu'ici, le fait qu'un neurone n'est pas une petite boule avec des canaux, mais c'est quelque chose qui a des dendrites, qui a des axones, qui a des branches, et ces branches posent des problèmes redoutables. Vous avez ici une image qui est empruntée au musée Carral à Madrid, qui vous montre un neurone de Purkinje du cervelet de l'homme. Alors vous avez ici le corps cellulaire, vous avez ici l'axone avec une petite branche collatérale et puis la branche qui s'en va vers la sortie du cervelet. Et puis vous êtes extraordinaire arbre dendritique en espalier. Tout ça se fait dans un plan. C'était une spécificité de ce neurone d'avoir un arbre dendritique dans un plan. Et vous voyez, c'est une extraordinaire ramification. Et chacune de ces ramifications reçoit des contacts synaptiques de fibres qui viennent perpendiculairement au tableau et qui contactent ce neurone et qui peuvent faire ici de l'ordre de 200 000 contacts sur un neurone. Alors, 200 000 contacts. Et chacun donne un potentiel synaptique. Mais les électrophysiologistes avaient depuis longtemps posé la question, si un potentiel synaptique se produit dans cette région, l'endroit d'où part le potentiel d'action, c'est ici, c'est sur l'axone. Il va être considérablement atténué, ce potentiel synaptique, à travers toutes ces branches. Et si on faisait des calculs, en essayant de modéliser ce réseau, on s'apercevait que si un potentiel de 10 millivolts se produisait ici, il risquait de se retrouver ici à des amplitudes 10 fois ou 100 fois plus faibles. Et que pouvait donc bien faire le neurone d'un signal aussi faible, atténué par cette distance? Et puis, s'il y a un tout petit potentiel ici, comment le neurone sait qu'un petit potentiel ici est différent d'un petit potentiel qui vient d'ici? Encore un problème extrêmement difficile à résoudre. Ici, même image, un neurone, cette fois-ci, de l'écorce. Alors, les neurones de l'écorce cérébrale fascinent toujours parce que l'écorce, c'est la structure la plus noble du cerveau, celle qui pense. Et vous voyez que c'est la même chose, le corps cellulaire est ici, l'axone est là, mais il y a des branches, et ces branches sont très longues, elles peuvent atteindre plusieurs centaines de microns, et elles sont décorées d'épines dendritiques, qu'on voit aussi d'ailleurs dans les cellules de Purkinje, c'est-à-dire que de petites extrusions, de petites protubérances ici, qui sont de l'ordre du micron, et sur lesquelles se font les contacts synaptiques, ici l'élément présynaptique, ici l'épine, et ici le corps du dendrite, la branche dendritique. Ici encore, les calculs montraient qu'il y avait une atténuation formidable entre l'épine et le corps cellulaire. On n'arrivait pas à comprendre comment le corps cellulaire arrivait à utiliser les signaux atténués le long de ses branches. Alors la révolution ici, révolution récente, ça a été de découvrir qu'en fait, les dendrites ne sont pas des structures passives, comme on le croyait. Ils sont capables, ils ont des canaux sensibles au potentiel, et ils sont capables, dans certains cas, de propager des potentiels d'action. C'est-à-dire que si le signal est assez grand ici, il va donner un potentiel d'action, et c'est ce potentiel d'action qui va se transmettre ici, non pas comme un signal atténué, mais comme un signal de pleine amplitude qui va voyager sur les dendrites. Et la surprise supplémentaire, c'est que dans certains cas, le potentiel d'action traverse... voyage en sens inverse, voyage dans le sens antidromique. Et ça, je vais l'illustrer dans une image que j'emprunte au travail du groupe de Zachmann, dans lequel vous avez ici un neurone pyramidal de l'écorce qui est enregistré avec deux électrodes. Alors, pour être sûr qu'on était dans le neurone, on a utilisé des microélectrodes qui étaient remplies de colorants, et pour être sûr de savoir où on était, on a mis deux microélectrodes, une avec un colorant vert, l'autre avec un colorant bleu. Donc ici, on est au niveau du soma, ici au niveau du dendrite. Et puis on stimule des fibres présynaptiques qui sont au-dessus dans la partie terminale ici à la superficielle de l'écorce, on excite des synapses qui sont dans cette région, un peu hors du dessin. Alors, la première stimulation, ici, on stimule faiblement, c'est-à-dire une ou deux fibres, on va exciter faiblement le neurone. Et vous voyez que dans le dendrite, on a un potentiel synaptique excitateur, et dans le soma, on a quelque chose de beaucoup plus petit. C'est bien ce qu'on avait prédit, c'est-à-dire qu'ici, le signal est plus grand, et puis dans le soma, il est plus petit. Donc dans ce cas, on voit bien qu'il y a une atténuation entre le dendrite et le soma, une atténuation dans le sens classique, prédit. Mais là, on stimule plus fort, on stimule, au lieu de stimuler 2-3 fibres, on en stimule une dizaine. Et donc on a un potentiel synaptique plus grand dans le dendrite, et bien sûr aussi plus grand dans le soma, même s'il est atténué. Mais la surprise ici, c'est qu'il part un potentiel d'action, ça c'est pas une surprise, dans le soma. Mais il part aussi un potentiel d'action dans le dendrite. Mais le potentiel d'action du dendrite démarre après celui du soma. Et par conséquent, ce qui s'est passé, c'est que l'excitation forte de la synapse ici s'est transmise, atténuée jusqu'à cette région, a fait partir un potentiel d'action, sans doute le long de l'axone, et que ce potentiel d'action est remonté le long du dendrite. Alors, où il remonte? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait un potentiel d'action qui ne va pas dans le bon sens, qui, au lieu d'aller vers le neurone voisin, comme il était censé le faire, remonte en sens inverse de ce qu'il était allé faire? Ben, l'idée ici, c'est qu'il informe la synapse qu'il y a eu émission d'un potentiel d'action. Et vous verrez que ça sert dans certains modèles de fonctionnement du système nerveux, cette intervention, cette signalisation rétrograde, antidromique, est à la base de certains modèles de plasticité. Donc, d'une façon générale, la conclusion de ce type d'analyse, c'est que les dendrites sont des structures capables, sont des structures excitables, et donc capables d'envoyer des potentiels d'action. Mais alors, vous voyez qu'on ne peut plus modéliser le neurone comme une boule avec un axone. On est obligé, pour chaque neurone, de prendre en compte sa géométrie spécifique et de faire des modèles en trois dimensions. Et là, c'est un problème, évidemment, redoutable, parce qu'il va falloir traiter des milliers de neurones, chacun à sa forme, etc. Et chaque expérience devra vérifier la forme de ce neurone et la structure de son arbre dendritique. Alors, le dernier problème, c'est ce problème de la plasticité neuronale. À savoir qu'un neurone a un équipement de canaux ioniques à un instant donné, mais, suivant ce qui lui arrive, il peut changer ses canaux ioniques, il peut en perdre ou en gagner, et donc c'est ce qui fait sa plasticité. Alors, ce phénomène de plasticité neuronale est au centre de très très nombreuses études, depuis que, en 1973, Bliss et Lomo ont découvert, dans une structure spécifique du système nerveux, un modèle de plasticité neuronale. Alors, leur découverte a été faite dans une structure qu'on appelle l'hippocampe, qui, je vous figure ici, encore un dessin de Cajal. C'est une structure très régulière qui a fasciné les électrophysiologistes à cause de son organisation régulière et dans laquelle on peut, comme dans l'écorce, stimuler des fibres qui innervent une cellule pyramidale bien, bien précise. Et l'observation centrale de Bliss et Lomo, c'est que quand ils stimulent une fibre excitatrice à faible cadence, par exemple une fois toutes les 10 secondes, ils ont un potentiel synaptique stable qui a une certaine amplitude. Et puis s'ils donnent un train sans potentiel d'action à 100 par seconde, c'est-à-dire une seconde de stimulation, ils excitent vigoureusement cette synapse, et puis ils reviennent à 10 par seconde, et voilà que le potentiel synaptique a grandi. Et non seulement il a grandi, mais maintenant, si on maintient la stimulation à cadence lente pendant 40 minutes, la réponse reste toujours plus grande. Autrement dit, on a déclenché une potentialisation de la transmission synaptique, et c'est une potentialisation de longue durée, LTP en anglais, Long Term Potentiation. Elle peut durer des minutes, des heures et même des jours. Donc, un seul train de stimulation a modifié la synapse de manière quasi permanente. Alors, c'est évidemment fasciné les neurobiologistes. On y voyait un modèle de mémoire cellulaire et on a essayé de comprendre ce qui se passait. 10 000 articles plus tard, on n'a pas encore tout à fait compris la chaîne complète des événements. Mais on a quand même compris le début et la fin, au moins dans l'exemple que j'ai pris ici. Et le début, eh bien, il fait intervenir notre ami, le récepteur NMDA, plus son frère, le récepteur AMPA. c'est-à-dire deux récepteurs du glutamate qui sont associés sur les épines de la cellule. Alors l'histoire se joue de la manière suivante. Ici, la terminaison présynaptique qui libère du glutamate et qui libère ce glutamate sur deux récepteurs du glutamate, le récepteur NMDA et le récepteur AMPA. Le récepteur AMPA, c'est un récepteur banal. Quand il a du glutamate, il s'ouvre, il est espacé des ions et il donne le potentiel synaptique que vous avez vu tout à l'heure. Le récepteur NMDA, lui, comme vous savez, il est bloqué par les ions magnésium. Et si cette dépolarisation ici est petite, et elle est petite parce qu'il y a une seule épine, une seule terminaison, eh bien, ma foi, lui, ne fera rien. Et donc, on répète la stimulation et on a toujours la même réponse qui est due à l'activation de ce récepteur. Mais maintenant, si on fait une stimulation à haute fréquence et qu'on dépolarise cette cellule assez pour qu'elle émette un potentiel d'action, à ce moment-là, le magnésium va être éjecté, du calcium va rentrer, du sodium va rentrer, du calcium va rentrer, et surtout ce calcium va rentrer, et va déclencher toute une séquence d'événements à l'intérieur de la cellule. Donc ce qui déclenche la potentialisation de longue durée, c'est le fait que le récepteur de NMDA, pendant le train à haute fréquence, a lâché son magnésium et laissé rentrer du calcium à l'intérieur de l'épine. Et si on bloque ce processus, eh bien on bloque la potentialisation de longue durée. Alors qu'est-ce que déclenche l'entrée de calcium? C'est là que les controverses sont immenses. Plusieurs centaines de molécules ont été impliquées dans la cascade. Mais récemment, on a peut-être bien trouvé le bout de la chaîne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait le calcium? Pourquoi la réponse est plus grande? Eh bien, la réponse est plus grande parce que l'entrée de calcium à travers le récepteur NMDA déclenche une séquence d'événements qui est résumée ici très brièvement, mais qui, à la fin, aboutit à l'insertion dans la membrane de récepteurs AMPA qui étaient prêts à l'intérieur de la terminaison de l'épine, mais qui n'étaient pas incorporés dans la membrane. Et donc, ces petites vésicules qui portent des récepteurs AMPA sont incorporées dans la membrane, et la membrane, donc, du coup, a plus de récepteurs AMPA, elle devient plus sensible au glutamate, et par conséquent, on a la potentialisation. Et une fois qu'ils sont insérés, ben, ils y restent, et par conséquent, ça peut durer des jours, des heures, et des heures, des jours et des semaines. Alors, où va-t-on maintenant à partir de là, à partir de ces notions, sachant que les neurones sont plastiques, qu'ils ont des arbres dendritiques, comment aborder le problème suivant? Je pense que si on réfléchit à ce qui va se passer dans les années qui viennent, on peut déjà voir deux grandes directions. La première direction, et la principale sans doute, c'est d'aller vers l'analyse de l'épine. L'épine, c'est un micron. Donc c'est quelque chose qu'on voit mal au microscope. Et puis surtout, on ne peut pas y mettre d'électrodes. Une structure qui fait moins d'un micron, les microélectrodes les plus petites font quelque chose de l'ordre du micron. Mettre une électrode d'un micron à l'intérieur d'une épine, impossible. Et par conséquent, l'épine, c'est l'endroit où se passent les événements, mais c'est un endroit où les électrophysiologistes ne peuvent pas aller. Alors il fallait une aide. Et cette aide, elle vient. Elle a commencé à venir. Elle a commencé à venir des gens qui ont introduit des méthodes optiques de mesure de l'activité nerveuse. Et la méthode optique la plus spectaculaire qui a été introduite au cours des 10 dernières années, c'est les méthodes qui permettent de mesurer le calcium intracellulaire, et en particulier à l'aide de sondes qu'on peut introduire dans les cellules sans les endommager. Elles traversent toutes seules la membrane et elles se font piéger ensuite à l'intérieur. Et ici, vous avez une image qui vous montre, là encore, il faudrait peut-être baisser un peu la lumière, qui vous montre une cellule de Purkinje qui a été injectée avec de ces colorants. Et vous voyez tout son arbre dendritique ici, éclairé, illuminé en rouge. Alors, il s'agit de fausses couleurs, mais il s'agit d'une mesure de la concentration de calcium pendant l'activité. Et vous voyez que l'affaire se joue, la montée de calcium qui correspond au rouge, se joue essentiellement dans l'arbre dendritique. Et puis ici, les grandes branches du dendrite sont jaunes, c'est beaucoup moins chargé en calcium, et le corps cellulaire, pratiquement, lui, il n'a pas bougé au point de vue de la concentration de calcium, pas plus que l'axone. Et par conséquent, on voit ici qu'on arrive à suivre les événements qui se sont passés dans les dendrites, dans les parties périphériques, où jamais une électrode ne pourra être introduite. Et l'espoir principal des électrophysiologistes est que des méthodes de ce type vont leur permettre d'accéder au niveau subcellulaire, au niveau de ces épines dendritiques qui sont, en gros, l'endroit où se passent les événements les plus importants. Alors, les mesures de calcium, c'est une méthode, mais il y a aussi tout un développement de nouvelles microscopies, en particulier la microscopie à deux photons, qui est une microscopie qui permet de descendre à l'échelle du micron avec une résolution très supérieure à celle de cette microscopie classique qui était utilisée ici. Et d'autre part, il y a le développement de nouveaux colorants et peut-être de colorants qui permettront de mesurer le potentiel. Ici, on mesure la concentration de calcium, mais on pourrait mesurer le potentiel dans les branches dendritiques et dans les épines. Donc, c'est la grande tendance, aller vers le niveau subcellulaire avec ces nouvelles microscopies et avec ces nouveaux colorants dont il apparaît actuellement des nouveaux composés chaque jour. Et puis, l'autre tendance, évidemment, c'est que on n'expliquera quand même pas le système nerveux cellule par cellule, et il va falloir commencer à analyser plusieurs cellules simultanément si on veut essayer de comprendre l'organisation des réseaux neuronaux. Et là encore, il y a des efforts faits par les électrophysiologistes pour enregistrer avec des électrodes particulières 4 ou 5 cellules à la fois et à faire l'analyse formelle du réseau constitué par ces neurones. Mais là encore, je pense que les méthodes optiques sont sans doute l'avenir, parce que les méthodes optiques nous permettent d'imaginer, de suivre les influx à travers le réseau neuronal. Alors, il y avait un texte fameux de Sherrington qu'il a écrit en 1940 dans un de ses derniers livres qui s'appelait « Man and His Nature ». Et Sherrington disait, je traduis, il comparait le cerveau à un métier enchanté. Alors, métier ici, c'est métier à tisser, hein? Enchanted loom. Et il disait, le cerveau, un métier enchanté où des millions de navettes clignotantes, je traduis, hein? C'est pas tout à fait ça, tisse un patron changeant, toujours significatif, même s'il n'est jamais persistant. Eh bien, je crois que nous sommes peut-être à la veille de voir se réaliser cette vision prophétique et poétique de Sherrington.
Bien, maintenant nous allons passer aux questions dès que les micros seront prêts. Il y a un petit retard de micro, donc 30 petites secondes. Alors, j'ai une question là et une question là. Oui. J'ai une question là, je répète, et une question là, voilà. Voilà, le micro arrive d'un côté et il arrive de l'autre. Levez la main. Voilà. Oui. Allez-y. Levez-vous, merci.
Oui, je voulais savoir si la simulation informatique a apporté quelque chose à la neurophysiologie ou si c'est seulement l'échange qui est fait dans l'autre sens.
Non, il y a eu un apport très considérable de la simulation informatique à la compréhension de ce qui se passait. Et justement, il y a un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Computational Biophysics de Christophe Corr, qui résume assez bien tous les apports de la simulation à la définition des opérations de calcul, de sommation, d'intégration, de multiplication, etc. Des idées qu'on peut se faire actuellement sur les opérations du système nerveux. Alors, ce que j'ai dit et qui pourrait peut-être motiver votre question, c'est que les neurones qui étaient utilisés dans ces premiers modèles, qui étaient les neurones de l'époque, c'était des modèles qu'on appelle integrate and fire, ou des choses de ce genre, c'est-à-dire des neurones qui ne faisaient qu'une chose, ou bien ils déchargeaient un potentiel d'action, ou bien ils n'en déchargeaient pas lorsqu'ils étaient arrivés au seuil. Notre demande aux gens qui font des modèles, c'est qu'ils mettent dans leur système maintenant que les ordinateurs sont plus puissants et maintenant qu'on sait que les neurones sont plus complexes, qu'ils mettent des neurones plus réalistes, c'est-à-dire avec des branches, et puis pas avec deux ou trois courants, mais avec 10. Alors, ils n'aiment pas beaucoup, évidemment, on les comprend, parce que ça, si on a 100 neurones et que chaque neurone a 100 canaux, etc., bon. Mais, donc, les deux processus avancent ensemble. La modélisation est partie de modèles très simples de neurones, en mettant des réseaux complexes, et maintenant, elle commence à incorporer des modèles plus réalistes de l'élément de base.
Une question là, maintenant?
Oui. Vous m'entendez, là?
Levez-vous.
Ah, d'accord. Oui, ça concerne les problèmes de stimulation au niveau médical, au niveau médecine, qui est relié donc à la médecine chinoise, à l'acupuncture, dans le cas, d'une part, du traitement des épilepsies, puisqu'on travaille aussi dans des micro-courants, je veux savoir quel est le rôle des neurones dans ces cas-là, quelle est leur importance, comme il y a aussi un chercheur et un professeur, un médecin qui travaille à Grenoble, sur le traitement des scléroses en plaques par des effets de stimulation.
C'est une question à plusieurs facettes. Il y a des cas où la stimulation électrique a des effets qui sont prévisibles. Je pense que le cas le plus spectaculaire, c'est le cas des prothèses cochléaires, où on stimule le nerf cochléaire et on sait que les différents axones viennent des différentes régions de la cochlée, et chez certains sourds, on peut remplacer la stimulation sonore par une stimulation du nerf cochléaire et avoir d'excellents résultats. Donc dans ce cas, on sait ce qu'on fait, on stimule des fibres, je dirais, quasi individuelles, qui venaient d'une région précise de la cochlée et dont on sait qu'elles transportaient un message correspondant à telle fréquence. Et puis ça va jusqu'à l'autre bout, à des stimulations où on ne sait pas très bien ce qui se passe, même si empiriquement ça marche. L'électrochoc est un exemple typique. Il est certain que l'électrochoc est efficace dans certains traitements psychiatriques, mais on est bien en peine de savoir quel est le processus efficace dans une stimulation de ce type. Donc, entre les deux, vous avez toute une gamme de situations où on sait plus ou moins ce qu'on fait. Dans un certain nombre de cas, dans le traitement de la douleur, on peut stimuler des fibres dont on sait qu'elles masquent les entrées douloureuses. Et là encore, on pense qu'on comprend à peu près ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a masquage de l'entrée douloureuse par une entrée latérale, etc. Donc, je crois que la question est multiple. Stimulation, c'est un terme très vague. Vous avez vu récemment dans Le Monde, il y avait un article sur la stimulation corticale du cortex visuel, où on arrivait à donner une image visuelle en stimulant les zones appropriées. Là, je pense qu'on comprend à peu près ce qui se passe. Dans le cas de la sclérose en plaques ou dans le cas de l'électrochoc, je pense que c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui se passe.
J'ai une question là, puis une question là-bas après.
Vous avez parlé, pour terminer, d'études qui se feraient sur 3-4 cellules. Hier, M. Jeannereau nous a parlé des aires de Brodmann en nous disant qu'il y avait probablement une certaine homogénéité des cellules pour chaque aire de Brodmann. Est-ce que vous pensez aussi qu'on pourra, parce qu'une aire de Brodmann comprend des centaines, voire des milliers de cellules, est-ce qu'on pourra extrapoler ce qui sera trouvé à l'échelon cellulaire ou possicellulaire?
Oui, je crois que un des grands espoirs dans l'étude de la physiologie du cortex, c'est que le cortex est construit de manière modulaire, pour autant qu'on sache. Et donc, l'idée de base, c'est que le système a utilisé un module qui a peut-être 50 ou 100 neurones distincts, mais qui reproduit à des milliers d'exemplaires et qui est réutilisé pour des fonctions différentes. Donc, c'est pour ça que je pense que l'espoir et de comprendre ces réseaux possicellulaires qui font ces micro-colonnes dans l'écorce. Et le jour où on aura compris la micro-colonne qui contrôle l'index, évidemment, on n'aura pas beaucoup de mal, conceptuellement, à comprendre celle qui contrôle le médius ou le petit doigt. Donc, je crois qu'il y a cette idée que l'écorce, effectivement, ce sont des millions et des milliards de cellules, mais la structure modulaire laisse un espoir qu'on n'aura pas besoin de comprendre chacune de ces cellules l'une après l'autre et de reconstituer l'ensemble. On doit pouvoir comprendre ces circuits intermédiaires qui sont de l'ordre de la cinquantaine ou de la centaine de cellules.
des questions là-bas.
Excusez mon ignorance, mais en fait, j'avais pas assisté à l'émission sur le clonage humain. Sur le clonage humain. Mais en fait, vous parlez de clonage, et en fait, j'aimerais savoir les réels intérêts de la science au niveau d'un clonage. Quoi. Quand on voit déjà ce que ça fait sur les plantes ou sur
le clonage humain. J'ai peut-être pas utilisé clonage bien. Ici, il s'agit de déterminer la séquence d'acides aminés qui constitue un canal. Si vous voulez, il n'est pas question l'introduire actuellement dans un animal ou de cloner un individu. Ici, on a simplement réussi à déterminer la séquence d'acides aminés qui constitue, par exemple, la sous-unité responsable de la constitution du canal potassium. Alors, une fois qu'on a cette séquence, on peut regarder, on peut l'identifier très facilement dans les autres systèmes, et on découvre que dans telle ou telle maladie, il y a une mutation sur un aminoacide qui fait que le canal fonctionne mal, ou reste ouvert trop longtemps, ou pas assez longtemps, ou pas du tout, etc. Et on a une base moléculaire d'explication de certaines maladies génétiques. Mais ça n'a rien à voir avec le clonage animal au sens d'Oli, ce genre de choses. C'est le clonage d'une molécule, c'est la détermination de la séquence d'acides aminés d'une molécule.
J'ai une question maintenant là-bas, puis là.
Hier, on a vu une séquence d'apprentissage qui avait l'air de produire un effet de création de synapses. Est-ce qu'on sait à peu près en combien de temps des synapses se créent, enfin, ou se prolongent, ou est-ce que vous avez... vous pouvez nous expliquer quelque chose là-dessus ?
Oui. Disons, il est certain que chez l'animal adulte, on a dit longtemps qu'il n'y avait pas création de nouvelles synapses. On sait aujourd'hui qu'il y a des synapses qui se créent. Mais je pense quand même qu'on peut dire qu'il y en a peu. Et le processus que je vous ai décrit est le plus probable de ce qu'on peut appeler une création de synapses. C'est-à-dire qu'un certain nombre des épines de l'hippocampe n'ont que le récepteur NMDA, elles n'ont pas de récepteur AMPA incorporé. Tout le récepteur AMPA est dans l'épine. Si on stimule cette synapse avec du glutamate plus un potentiel d'action, le récepteur NMDA s'incorpore à l'épine. Et vous avez créé une synapse. Mais vous n'avez pas créé physiquement une forme nouvelle. L'épine était là. Simplement, le récepteur était dans le cytoplasme et la synapse n'existait pas. Et une fois que le récepteur est passé dans la membrane, la synapse devient fonctionnelle. Donc, je pense que la création de synapses, le bourgeonnement de synapses et l'apparition de nouvelles synapses, la poussée de dendrites, ça se produit dans le système nerveux, mais c'est quand même rare. L'idée qui prévaut, c'est que les connexions sont là, mais elles peuvent être renforcées ou au contraire diminuées. C'est-à-dire que à certaines épines, les récepteurs qui sont exprimés à la surface vont être avalée dans le cytoplasme, disparaître, la synapse va devenir silencieuse. Physiquement, elle est toujours là, l'épine est toujours là, le contact est toujours là, mais le glutamate n'a plus de partenaire. Et je crois donc que le modèle dominant de la construction de synapse, c'est plutôt l'incorporation dans une structure, dans un réseau dont la structure est assez figée, de molécules sensibles ou l'absorption à l'intérieur de la cellule de molécules sensibles.
J'ai une question maintenant de l'autre côté, là-bas.
Oui, c'est moi. Bonjour, de ce côté-là. C'est de ce côté. Ah, plus à gauche. Merci. Monsieur, vous avez parlé des échanges chimiques, de ces choses-là. Je voudrais savoir quel est l'impact des vitesses des réactions, premièrement, entre chaque phénomène. Je me demande si, par exemple, il y a une correspondance entre la vitesse de l'électricité et la vitesse des réactions chimiques. Ça, c'est premièrement entre chaque phénomène, il y en a beaucoup. Et ensuite, est-ce que chez tous les individus, cette vitesse est la même, puisque les individus, eux, n'ont pas toujours les mêmes réactions, elles sont plus lentes, plus longues, etc. Incorporer la notion de temps et de vitesse à tout ce qui se passe, étant donné que ce qui arrive n'est pas continu, mais un petit peu... goutte à goutte, si on veut.
Oui, en ce qui concerne la vitesse à laquelle se propage un potentiel d'action n'est pas la vitesse de l'électricité. C'est une vitesse de l'ordre de mètres par seconde, de dizaines de mètres par seconde, parce qu'il y a une série de canaux qui doivent s'ouvrir à chaque fois, et donc chaque fois des processus qui prennent des temps de l'ordre de 10 à 100 microsecondes, etc. Donc ces vitesses sont de l'ordre, dans le cas le plus rapide, de la centaine de mètres par seconde. Maintenant, en ce qui concerne la variation d'un individu à l'autre, effectivement, il y a des variations, il y a des variations pathologiques. En particulier, si la myéline disparaît dans un nerf, ce nerf va commencer à ralentir la transmission de l'influx et puis à l'arrêter. Et il y a des problèmes formidables qui se posent, par exemple, au point de vue de la température, c'est-à-dire comment un animal à sang froid qui change de température et où donc tout le réseau voit la vitesse des échanges changer, comment il arrive à maintenir sa cohérence, comment toutes les connexions arrivent à être changées en proportion, etc. C'est des problèmes qu'on connaît mal, mais qui sont absolument fascinants. Vous avez des cas dans la détection de la latéralité des sons, par exemple, où le système localise un son par la différence des temps qu'il met à arriver à une oreille et l'autre. Si un son vient de droite, il arrivera d'abord à cette oreille, ensuite à celle-ci, et à l'intérieur du système nerveux, il y aura un décalage entre les arrivées. Et le système nerveux est capable de mesurer des différences de l'ordre de 10 microsecondes. Et on ne sait pas très bien comment il fait pour mesurer des différences de latence de 10 microsecondes, alors qu'un potentiel d'action, c'est une milliseconde, c'est-à-dire 100 fois plus. Donc il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, mais ce facteur temps est essentiel dans le fonctionnement nerveux.
J'ai une question maintenant complètement de l'autre côté.
Bonsoir. Je souhaiterais savoir ce que vous pensez sur les expériences qui sont effectuées dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment dans lesquelles on greffe des neurones, je crois, on a fait des expériences sur le neurone du ver nématode, on greffe des neurones sur des composés électroniques pour augmenter les capacités de calcul ou autre. Enfin, je ne suis pas assez experte dans le domaine. Merci.
Oui, je pense que ça, c'est prometteur, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas où on peut imaginer améliorer la vitesse d'un circuit en rajoutant des circuits artificiels si le circuit est bien identifié. Je ne sais pas à quelles expériences vous pensez dans le cadre des nématodes, mais il y aura, je crois, une conférence de l'Université de les savoirs sur l'intelligence artificielle plus loin dans le programme. Le problème de l'intelligence artificielle, donc, c'est un problème beaucoup plus général. Mais sur la greffe de neurones artificiels, je pense qu'effectivement, il y a des prothèses possibles où on peut imaginer qu'une électrode va stimuler le neurone pyramidal qui va commander le mouvement de la main, etc., et qu'on peut programmer correctement la stimulation sélective de certains neurones moteurs ou de certains neurones sensoriels, comme dans le cadre de la prothèse auditive. Donc je pense qu'il y a un avenir pour les prothèses neuronales, c'est-à-dire pour l'introduction d'éléments de silicium, si vous voulez, dans le système nerveux.
Une question là, et après une toute dernière là-bas. Levez-vous. Là-bas.
Oui, je voulais savoir, une fois qu'une cellule a été activée par l'introduction d'un calcium, elle peut rester activée pendant plusieurs heures, plusieurs semaines. Que devient-elle après ? Est-ce qu'elle revient à son état normal ? Est-ce qu'elle garde le potentiel de redevenir activée ? Qu'est-ce qu'elle devient ?
Dans l'exemple que j'ai pris de la potentialisation de longue durée, effectivement, s'il n'y avait rien d'autre, on irait vers une catastrophe, c'est-à-dire toutes les synapses finiraient par être potentiées à un moment donné, et puis le système perdrait sa capacité d'apprentissage. Donc en fait, il y a un processus inverse qui s'appelle la dépression de longue durée, qui est déclenché par d'autres paramètres de stimulation et qui peut faire redescendre une cellule d'un état potentialisé à un état normal et même à un état déprimé. Donc dans le système nerveux, les deux processus, la potentialisation de longue durée et la dépression de longue durée, joue en sens inverse pour maintenir les synapses à un niveau moyen à partir desquels on peut augmenter ou diminuer leur efficacité. Sans ça, effectivement, on aurait un problème à terme dramatique que d'avoir toutes les synapses potentialisées au maximum et le système deviendrait très, très rigide.
Dernière question là-haut. Levez-vous, s'il vous plaît, merci.
Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un lien, et si oui, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, entre les échanges que vous avez expliqués au niveau des synapses et le processus de synchronisation dont on parle entre les régions cérébrales?
Oui. Il y a un lien, c'est-à-dire que le processus de synchronisation entre régions cérébrales fait intervenir une rythmicité qui est pour l'essentiel du type que j'ai appelé interneuronal, c'est-à-dire où on a besoin des neurones de systèmes couplés où les choses échangent des informations, plus sans doute des synapses qu'on appelle synapses électriques qui permettent d'assurer la synchronisation des cellules. Mais c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles les oscillations sont très à la mode, c'est que non seulement elles interviennent dans la motricité, et comme je l'ai dit, dans le sommeil et autres processus où on sait qu'il y a des processus rythmiques, mais dans la perception, et le phénomène je crois, auquel vous faites allusion, c'est le phénomène du liage, où on a été amené à supposer que quand nous percevons les différentes parties d'un objet, c'est parce que ces différentes parties déclenchent des oscillations synchrones dans les neurones qui sont chargés d'identifier les parties de cet objet. Donc, oui, il y a une relation entre les oscillations dont j'ai parlé, mais ce ne sont pas les oscillations de type NMDA que je vous ai présentées. Ce sont d'autres mécanismes d'oscillation.
Monsieur Hacher, je vous remercie.